Quand des ouvriers retapent une vieille maison, ils sont obligés de démolir des cloisons ou remplacer des planchers et refaire des plafonds. Il n'est donc pas rare qu'au fil des réparations, ils fassent des trouvailles intéressantes d'objets dont les propriétaires ignorent l'existence. La même chose arriva au roi Josias lorsqu'il ordonna la remise en état du temple. Pendant les travaux, le prêtre Hilkia trouva un exemplaire du livre de la loi de Moïse. Cette découverte fut l'occasion d'un second renouveau spirituel, mais qui resta comme le précédent superficiel, car le peuple était profondément ancré dans le culte des idoles. Josias et le prophète Jérémie étaient des jeunes hommes à peu près du même âge. Ils devinrent amis et œuvrèrent ensemble, essayant de ramener les habitants de Juda à l'Éternel. Je commence à lire le chapitre 7 du livre de Jérémie. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie. « Tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel et proclame ce message. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, gens de Juda, vous qui entrez par ses portes pour vous prosterner devant l'Éternel. » Versets 1 et 2. Jérémie se place à l'entrée du temple afin d'annoncer son message aux Israélites au moment où, en foule, ils entrent dans le parvis et ainsi de les surprendre en flagrant délit d'hypocrisie, pourrait-on dire. En effet, ils donnaient l'impression de revenir à l'Éternel, mais ce n'était qu'une apparence, un subterfuge, car leur cœur restait attaché aux idoles et à faire le mal. Je continue. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Alors, je vous laisserai vivre en ce lieu. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'Éternel. Voici le temple de l'Éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Versets 3 et 4. Le temple, nouvellement réparé, était flambant neuf et les Israélites admiratifs disaient « Qu'il est beau, c'est quand même bien de retourner au temple comme dans le bon vieux temps. » L'enthousiasme était présent, mais la repentance sincère absente. Après la découverte du rouleau de la loi de Moïse, celui-ci avait été lu au roi, puis devant les responsables du peuple. Alors, comme un seul homme, ils avaient déclaré qu'ils marcheraient fidèlement devant Dieu. Et Josias fit célébrer une Pâque grandiose. Je lis le passage. Aucune Pâque semblable n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel. Aucun des rois d'Israël n'avait organisé de célébration de la Pâque comparable à la Pâque célébrée par Josias avec l'aide des prêtres et des Lévites, avec tout Juda et ceux d'Israël qui se trouvaient là, ainsi que les habitants de Jérusalem. Fin de citation. Le culte à l'Éternel était remis à l'ordre du jour, mais c'était de la religion pure, sans repentance et sans sincérité. La répétition « Temple de l'Éternel » est une sorte de refrain d'abord prononcé par les faux prophètes, puis par le peuple, qui avait un attachement superstitieux à ce bâtiment comme si c'était un porte-bonheur. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens rejettent les valeurs morales du christianisme, mais restent attachés aux formes, aux traditions et aux objets. C'est ainsi que le culte des murailles et des reliques remplace la consécration de cœur. Je continue le texte plus loin. Quoi ? Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères, vous faites des serments mensongers, vous offrez des parfums à Baal, et adorez d'autres dieux qui vous étaient inconnus, et puis vous venez vous tenir devant moi dans ce temple qui m'appartient, et vous dites « Nous sommes en sécurité, et c'est pour accomplir tous ces actes abominables ?» Versets 9 et 10. Le prophète fustige la piété formaliste des Israélites qui pratiquaient des actes cultuels, mais qui violaient la loi. Pire encore, ils croyaient que parce qu'ils avaient contribué financièrement à la réparation du temple et qu'ils offraient des sacrifices, ça suffisait pour être sous la bénédiction divine et pouvoir faire comme bon leur semblait. C'est comme dire « je peux aller voir une prostituée si ensuite je vais à la confesse ». Se moquer ainsi de Dieu est un sacrilège. Je continue. « Ce temple qui m'appartient Est-il à vos yeux une caverne de brigands? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi. L'Éternel le déclare. Verset 11. Quand Jésus a jeté les marchands qui trafiquaient dans le temple, il leur a dit, « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites un repaire de brigands. » Il citait Jérémie et aussi Ésaïe qui a dit, « On appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. » Que ce soit à l'époque de Jérémie ou de Jésus, il y avait des Juifs qui se donnaient un air pieux, mais quand ils n'étaient pas au temple, c'était des vrais teignes. Ce que Dieu demande est un changement de comportement suite à une repentance sincère. Les apparences, la religiosité, la musique sacrée, les habits sacerdotaux multicolores et les vitraux des cathédrales ne l'impressionnent pas. Je continue. « Allez donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, là où j'avais autrefois établi ma présence, et voyez ce que j'en ai fait à cause du mal qu'avait commis mon peuple Israël. » Verset 12. Depuis le temps de Josué jusqu'à celui du grand prêtre Élie, le tabernacle et le coffre de l'Alliance de l'Éternel se trouvaient à Silo, à une quarantaine de kilomètres au nord de Jérusalem, dans le territoire de Benjamin. Néanmoins, Dieu avait permis aux Philistins de dévaster ce lieu et il était prêt à faire de même avec Jérusalem où était son temple. Je continue plus loin. « Je vous rejetterai loin de moi comme j'ai rejeté tous ceux qui sont vos frères, le peuple d'Éphraïm. » Verset 15. Éphraïm était la principale tribu du royaume israélite du Nord et représente l'ensemble des 10 tribus qui furent déportées par les Assyriens un siècle plus tôt. Je continue. « Quant à toi, Jérémie, ne prie pas pour ce peuple, ne prononce en sa faveur ni plaidoyer ni requête. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Verset 16. Le peuple, ayant franchi le point de non-retour, son jugement est arrêté et plus rien ne peut l'empêcher. La prière devient donc inutile. Il vient un moment où l'intercession n'est plus de saison. Je continue le texte. « Ne vois-tu pas tout ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel, on offre des libations à des dieux étrangers, et tout cela m'irrite. Est-ce moi qu'ils offensent ? Demande l'Éternel. Non, c'est plutôt eux-mêmes à leur plus grande honte. » Versets 17 à 19. À l'origine, la reine du ciel était la lune qui représentait la fécondité féminine. Plus tard, cette divinité fut confondue avec la déesse Ishtar, babylonienne, et Astarté des Phéniciens, qui était la planète Vénus. C'est assez confus. On honorait la reine du ciel avec des feux et des réjouissances suivies de débauches. On lui offrait des gâteaux d'une forme plate et ronde qui représente le disque de l'astre et qui était fait avec du miel et de la fine farine. Toute la famille participait à ce travail, mais les pratiques idolâtres ne sont pas neutres. Elles avilissent ceux qui s'y adonnent et les privent des bénédictions divines. Je continue plus loin. « Non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres, je ne leur ai rien ordonné concernant les holocaustes et autres sacrifices quand je les ai fait sortir d'Égypte. Mais voici ce que je leur ai commandé. « Écoutez-moi et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez toutes les voies que je vous prescrirai afin que vous soyez heureux. » Versets 22 et 23. Le langage prophétique emploie souvent des formes paradoxales pour frapper l'imagination. Jérémie veut dire que Dieu n'a pas demandé un rite pour un rite et il a horreur de la conduite pieuse qui sert à cacher une vie corrompue. Il veut l'obéissance du fidèle et non pas le sacrifice d'animaux qui serait uniquement une façade. Quand la disposition morale fait défaut, Dieu rejette la forme extérieure de la cérémonie. Je continue le texte plus loin. « Rase ta chevelure et jette-la au loin, et sur les hauteurs, prononce une complainte, car l'Éternel rejette et abandonne cette race objet de son courroux. Verset 29. Ce geste qui exprime la consternation et le deuil signifie que Dieu coupe son peuple de son pays et l'envoie en exil. Je continue. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Verset 30. Cette parole était probablement d'actualité, ce qui signifie que ce n'était plus le bon roi Josias qui était sur le trône, mais un de ses descendants. Le roi Achaz fut le premier à introduire l'idolâtrie dans le temple. Ézéchias, son fils, l'ôta. Les deux rois suivants, Manassé et Amon, la rétablirent. Josias l'ôta à nouveau, mais les rois suivants la rétablirent une fois encore. Finalement, les Babyloniens mirent fin à ce cirque. Je continue le texte. Et ils ont bâti des hauts lieux qui s'appellent Tophet, qui est dans la vallée du fils de Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'ai pas commandé, et à quoi je n'ai point pensé. Verset 31. Dans la vallée de Ben Hinnom, à l'extrémité sud-ouest de Jérusalem, se trouvait Tophet, un sanctuaire dédié au dieu Moloch, représenté par une statue métallique creuse à l'intérieur de laquelle on faisait un feu d'enfer. Puis sur ses bras étendus, on déposait des bébés qui étaient rôtis vifs. Le chapitre se termine sur une description du châtiment à venir. Le siège de Jérusalem fera tant de victimes qu'on devra enterrer les morts à Tophet, cet endroit maudit où les Israélites sacrifiaient leurs enfants. Quelle horreur! Mais il y aura tellement de morts que les oiseaux mangeront les cadavres non inhumés. Je commence maintenant à lire le chapitre 8. À ce moment-là, l'Éternel le déclare, on sortira de leurs tombeaux les ossements des rois de Juda, ceux de ses ministres, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. On les exposera face au soleil, à la lune et à tous les astres du ciel, ces astres qu'ils ont adorés, auxquels ils ont rendu un culte, qu'ils ont suivi, qu'ils ont consulté et devant lesquels ils se sont prosternés. Ces ossements ne seront pas recueillis de nouveau pour être ensevelis. Ils deviendront du fumier sur le sol. Versets 1 et 2. Cette profanation des tombes des rois était un grave sacrilège et une humiliation cruelle pour les Israélites. Je continue plus loin. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des sages et nous avons la loi de l'Éternel? Car en réalité, le stylet mensonger des spécialistes de la loi l'a changé en mensonge. Verset 8. Les Israélites tiraient leur gloire de la possession de la loi. Mais elle était déjà commentée par des scribes qui en faussaient le sens. Nous avons ici la première trace de cette littérature rabbinique célèbre au temps de Jésus et qui s'appelait la tradition des anciens. Comme une moisissure, elle s'est étendue au fil des siècles et a recouvert la révélation divine pour la cacher aux yeux du peuple. Je continue. Les sages sont confus. Ils sont pris de terreur et emmenés captifs, car ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Que peuvent-ils encore avoir comme sagesse? Aussi, je donnerai à d'autres leurs épouses et les champs qu'ils cultivent à ceux qui les prendront. Car tous, petits et grands, sont avides de gain, tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Versets 9 et 10. Cette prophétie sur la captivité à venir place la faute et la racine du problème des Israélites sur leur abandon de la loi de Moïse. L'homme, laissé à lui-même et donc à sa seule sagesse, n'est pas équipé pour savoir comment vivre. Il a été créé pour dépendre de son Créateur, mais s'il le rejette et se détourne de sa parole, il est seul devant le néant. Les responsables du peuple ne se rendaient pas compte combien leur situation était grave parce qu'ils avaient adopté une attitude de laisser-faire vis-à-vis de l'idolâtrie et de la justice, ce qui fait que la loi de la jungle régnait dans le royaume de Juda. Je continue plus loin. Pourquoi rester sur place? Rassemblez-vous, rallions nos villes fortifiées et là nous périrons. Puisque l'Éternel, notre Dieu, nous fait périr et veut nous abreuver d'une eau empoisonnée, puisque nous avons péché contre lui. Nous espérions la paix, mais rien de bon n'arrive, et au temps de la guérison, c'est l'épouvante. Versets 14 et 15. Les prédictions des faux prophètes, qui disaient que ce serait la paix, ne se sont pas réalisées. À l'annonce de l'arrivée des Babyloniens, le peuple éperdu n'a pas eu d'autre solution que d'aller se réfugier dans les villes fortifiées afin de retarder le moment de la mort ou de l'exil. C'est vrai qu'il manifeste du remords, mais il fait déjà partie du jugement. Judas aussi a dit « J'ai péché en livrant un innocent à la mort », puis il est allé se pendre. Je continue le texte. On entend depuis Dan les chevaux qui hennissent. En entendant hennir les fougueux étalons, toute la terre tremble. Les voici, ils arrivent, dévorant le pays et tout ce qu'il contient, la ville et tous ses habitants. Je vais envoyer contre vous des serpents venimeux que nul ne peut charmer. Ils vous mordront, l'Éternel le déclare, ce sera sans remède. Versets 16 à 18. C'est par le nord qu'arrivera l'ennemi et le territoire de l'ancienne tribu de Dan sera le premier à être envahi. Les serpents venimeux représentent les Babyloniens et ce châtiment rappelle celui que les ancêtres des Israélites avaient subi dans le désert. Mais dans le cas présent, il n'y aura pas de remède comme la fois précédente. Je continue. La douleur me submerge, mon cœur est abattu. La communauté de mon peuple pousse des cris plaintifs depuis un pays éloigné. L'Éternel, gémit-elle, n'est-il plus en Sion? Son roi n'est-il plus là, au milieu de la ville? Ah, pourquoi m'ont-ils irrité par leurs statues taillées, par ces dieux inutiles et étrangers? Versets 18 et 19. Jérémie entend de Babylone les cris de détresse des déportés israélites qui se plaignent d'avoir été abandonnés par l'Éternel. Il répond pour Dieu, « Pourquoi m'ont-ils irrité ?» Je continue. « La moisson est passée, l'été est terminé, et nous ne sommes pas sauvés. Elle est brisée, la communauté de mon peuple. J'en suis brisé, oui, j'en suis accablé, en proie à la consternation. N'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi ne voit-on pas guérir la communauté de mon peuple ?» Versets 20 à 22. Les exilés expriment leur déception parce que la moisson est déjà passée et il n'y a pas eu de revirement politique qui aurait conduit à leur libération. La région de Galaad, à l'est de la mer de Galilée, était célèbre pour ses balsamiers. Avec la résine, on fabriquait un baume pour guérir les plaies. Cette pommade était l'un des principaux produits d'exportation du pays de Canaan. Jérémie utilise l'image de la blessure incurable pour évoquer l'anéantissement du royaume de Juda, qui subit le châtiment de l'Éternel. Voyant d'avance ce qui va arriver à son peuple, le prophète souffre déjà avec lui. Je finis le chapitre 8. « Je voudrais que ma tête soit changée en fontaine et que mes yeux deviennent une source de larmes, que nuit et jour je pleure sur les victimes de la communauté et de tout mon peuple. » Verset 23. Quand Jérémie écrit ces lignes, on entend peut-être des bruits de bottes à la frontière, mais plusieurs années vont encore s'écouler avant que l'invasion babylonienne n'ait lieu. Le prophète exprime sous une forme très poétique l'intensité du désespoir qu'il ressent face à la détresse que va vivre Israël. Jérémie ne s'était pas endurci avec les années. Il a continué à donner fidèlement les messages de l'Éternel aux Israélites, mais son cœur tendre en a été brisé. Tout comme Jérémie pleurait sur la détresse à venir du peuple de Juda des siècles plus tard, Jésus a pleuré sur la destruction que subirait Israël par les Romains en l'an 70. Je le cite. « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. Fin de citation. Je commence à lire le chapitre 9 qui continue sur le même ton que le précédent. « Oh, que neige au désert ! Un gîte de nomades ! Je quitterai mon peuple et je m'en irai loin de lui, car ce sont tous des adultères, une bande de traîtres. Leur langue est comme un arc tendu, décochant le mensonge. Ce n'est pas pour la vérité qu'ils dominent dans le pays. Ils font méfait après méfait et ils ne me connaissent pas. » L'Éternel le déclare. Versets 1 et 2. Les gîtes de nomades étaient des bâtiments carrés rudimentaires et très sales qui comportaient une cour intérieure. Ils étaient construits dans des endroits isolés, mais sur la route des caravanes afin de procurer aux voyageurs un havre de repos. Jérémie aurait voulu s'y réfugier afin de s'éloigner de la pollution morale de Jérusalem qui allait appeler le jugement divin sur elle. Tous les hommes pieux éprouvent des moments de lassitude au contact des souillures de leurs contemporains et du monde environnant. Ce fut le cas de David, du prophète Élie et aussi de Jésus, qui un jour, de guerre lasse, a dit « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? » Moi, ça m'interpelle un peu parce que je me demande avec quelle force je tire sur la corde de la patience de Dieu.